Depuis 1948, les températures estivales moyennes au Canada ont augmenté de 1,8 degré Celsius en moyenne, annonçait Environnement Canada au mois de juin, prévenant d'ailleurs par la même occasion que l'été 2025 serait certainement un été record en termes de température. Et Environnement Canada avait vu juste. La fin du mois de juillet et le mois d'août se sont révélés être très chauds et des records de température ont été atteints, jusqu'à 38 degrés à Miramichi par exemple ou encore 35 degrés ressentis 42 à Fredericton. Cette chaleur, on le sait, elle a un effet sur les humains, sur la nature, avec de nombreux feux de forêt, mais aussi, on en parle moins, sur l'eau et ses habitants. Colin Forsis, directeur exécutif de la Société du fleuve Saint-Jean, basée à Fredericton, est avec nous aujourd'hui pour parler de l'effet des vagues de chaleur sur la rivière.
Basically, when you get these kinds of prolonged heat waves, coupled with, you know, very little precipitation,
lorsqu'on a ce genre de vagues de chaleur prolongées, combinées à très peu de précipitations, ça entraîne un certain nombre d'impacts, notamment sur les rivières, en particulier la rivière Saint-Jean. L'un d'eux, bien sûr, est le réchauffement de la rivière. Physiquement, l'eau devient plus chaude, ce qui peut être néfaste pour certaines espèces de poissons, en particulier les poissons d'eau froide comme le saumon atlantique. On observe aussi une diminution de l'oxygène dissous, ce qui affecte non seulement les poissons, mais aussi d'autres espèces aquatiques qui vivent dans la rivière. Par exemple, les invertébrés aquatiques ou encore certaines espèces comme les tortues et les grenouilles. Même si ces dernières peuvent remonter à la surface pour respirer de l'air, elles ne l'extraient pas de l'eau elle-même. Ce sont donc surtout les animaux aquatiques qui dépendent de l'oxygène dissous dans l'eau qui sont touchés. Des températures plus élevées de l'eau rendent aussi la rivière plus vulnérable aux espèces envahissantes ou non indigènes. L'une qui nous préoccupe particulièrement en ce moment dans la rivière est la moule zébrée qui s'est déplacée depuis le Québec vers le sud. Elle apprécie justement les eaux chaudes et confortables. Ça peut également entraîner des proliférations d'algues comme les blooms de cyanobactéries. J'ai beaucoup parlé de ce sujet au cours des dernières semaines et les proliférations de cyanobactéries sont un phénomène que l'on peut observer. Cela réduit aussi le débit de la rivière Saint-Jean. Nous avons eu un manteau neigeux très faible au printemps, donc il y avait déjà moins d'eau alimentant le système fluvial et sans précipitation, la recharge provenant de ces sources est réduite. On constate donc une baisse du débit, une augmentation de l'évaporation et en conséquence, cela peut accélérer ou modifier les réactions chimiques qui se produisent dans la rivière. Ces changements ont à leur tour un impact sur la vie aquatique, que ce soit les plantes aquatiques, les poissons ou les invertébrés, bref, tout ce qui vit dans et autour de la rivière. En résumé, voilà un ensemble des préoccupations que soulèvent les vagues de chaleur prolongées combinées à un faible niveau de précipitation.
Impacts on aquatic life, whether it be aquatic plants or fish or invertebrates, anything in and around around the river. So basically, that's sort of a bunch of the concerns that we see around prolonged heat waves with low precipitation.
Dans la rivière Saint-Jean, l'espèce la plus menacée par les vagues de chaleur est le saumon atlantique de l'intérieur de la baie de Fundy. Mais d'autres espèces sont aussi concernées, nous explique Colin Forsis, directeur exécutif de la Société du fleuve Saint-Jean.
In the St. John River, we have the Outer Bay of Fundy salmon. They are certainly a species of concern. Their populations have been dwindling for the past 30 years. They, like trout, are a cold water species. So they want good, oxygenated, cold water.
Dans la rivière Saint-Jean, nous avons le saumon de la baie de Fundy. C'est certainement une espèce préoccupante. Leur population diminue depuis une trentaine d'années. Comme la truite, c'est une espèce d'eau froide. Elle a donc besoin d'une eau froide et bien oxygénée. On parle ici d'une eau autour de 15 degrés. Une fois que la température atteint 20 degrés, ces poissons ne souhaitent plus vraiment y rester. Ce qui se passe alors, c'est qu'ils redescendent plus profondément dans la rivière, là où l'eau est plus froide. Ils recherchent ce qu'on appelle des refuges thermiques, c'est-à-dire des zones où l'eau est plus fraîche pour eux. Bien sûr, plus une vague de chaleur se prolonge, plus l'ensemble de la colonne d'eau se réchauffe, ce qui provoque un stress thermique chez ces poissons. Ça peut même les tuer et entraîner une mortalité massive. J'ai déjà vu ce phénomène dans des ruisseaux où des poissons se retrouvent piégés dans des mares ou des zones où l'eau devient trop chaude. Dans les bonnes conditions, ça peut les tuer en seulement quelques heures. Un autre facteur qui les affecte est l'oxygène dissous. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils aiment les eaux froides et courantes. Elles contiennent davantage d'oxygène. Quand l'oxygène se raréfie, ils éprouvent des difficultés à respirer, ce qui devient beaucoup plus éprouvant pour eux. Ils deviennent alors moins actifs, et lorsqu'ils sont moins actifs, ils chassent moins leur proie, ce qui affecte leur alimentation. Si ça dure trop longtemps et qu'ils ne peuvent pas rejoindre les ruisseaux de frais ou que des barrières thermiques les empêchent d'y accéder, cela peut potentiellement nuire à la reproduction d'une espèce déjà préoccupante. À cela s'ajoute à la pollution nutritive et chimique qui se concentre davantage quand les niveaux d'eau sont bas. Et tout comme nous n'aimons pas nager dans une eau polluée, les saumons non plus. En somme, cela exerce de multiples pressions sur une espèce déjà fragilisée qui lutte pour survivre dans une rivière fortement transformée par l'activité humaine.
Well, there are other fish, like trout, for instance, would be impacted similar to salmon. They're a cold water species. Eels have the potential to be impacted by these kinds of events. They're actually getting ready to like leave rivers.
Des poissons comme la truite, par exemple, seraient touchés de la même façon que le saumon. Ce sont des espèces d'eau froide. Les anguilles aussi peuvent être affectées par ce genre de phénomène. Elles, en réalité, se préparent à quitter les rivières. Elles font l'inverse des saumons. Elles retournent en mer pour frayer dans la mer des sargasses. Donc si elles ne peuvent pas descendre à cause de barrières thermiques, elles ne peuvent pas se reproduire non plus. Les juvéniles de l'année, qu'il s'agisse de saumons ou de truites, qui entrent dans le système fluvial pour grandir avant leur migration de reproduction, sont en général plus vulnérables aux vagues de chaleur comme chez les humains. Quand on parle de protéger les humains lors des canicules, ce sont les très jeunes et les personnes âgées qui sont le plus à risque, chez les animaux aussi. Les très jeunes ou les plus vieux ont du mal à réguler leur température corporelle en période de forte chaleur. Cela les stresse énormément et plus le stress thermique dure, plus cela devient dangereux pour eux.
For plants, that's different. I mean, some of them have the potential to get choked out by algal blooms. Algae itself is a plant. Cyanobacteria is sort of a plant-animal mix. It's a kind of different thing. But when you have those kinds of blooms for long periods of time, they can reduce light and oxygen. And that, particularly the light and the use of nutrients.
Pour les plantes, l'impact est différent. Certaines peuvent être étouffées par les proliférations d'algues. Les algues elles-mêmes sont des plantes. Les cyanobactéries, elles, sont une sorte d'organisme à mi-chemin entre plantes et bactéries. Lorsque ces proliférations durent longtemps, elles réduisent la lumière disponible et l'oxygène. Elles consomment aussi beaucoup de nutriments, notamment les phosphates, qui sont une ressource limitée dans les écosystèmes aquatiques. Leur épuisement peut nuire aux plantes. Les plantes situées en bordure de rivière, quant à elles, peuvent se retrouver hautes et sèches et subir un stress thermique. Certaines entrent alors en dormance plutôt que prévu pour se protéger. On a déjà observé cela, notamment chez certaines espèces de bouleaux, de sorbiers et de peupliers, surtout dans les zones mieux drainées. Elles se mettent en dormance prématurément, ce qui les affaiblit car normalement elles doivent accumuler assez de réserves pour survivre à la période critique de l'hiver. Ainsi, les effets d'une vague de chaleur peuvent se prolonger bien au-delà de l'événement lui-même, parfois jusqu'à l'année suivante, selon la gravité et la durée de l'épisode, qu'il soit bref et intense ou long et chronique. Et nous observons de plus en plus souvent des vagues de chaleur fréquentes et prolongées, ce qui modifie profondément les rivières et les espèces qui y vivent. Tout est à les migrations, les habitats.
And that's definitely changing the river and the species that live in them. I mean, it affects everything: migration patterns, habitat, the wildfires. They do interconnect with the rivers.
Les feux de forêt, par exemple, interagissent avec les rivières, car les cendres qui s'y déposent les polluent, mais aussi parce que les espèces chassées par les incendies doivent se déplacer dans de nouveaux territoires qu'elles connaissent moins. Cela provoque davantage de conflits entre espèces pour les ressources, ainsi que des conflits entre humains et faune. Ces déplacements entraînent une perte d'habitat parfois durable. Imaginez une berge de rivière incendiée. Cette zone de transition qu'on appelle habitat riverain est très riche en biodiversité car elle forme une interface entre plusieurs écosystèmes. Lorsqu'on la perd, il faut parfois des décennies pour qu'elle se régénère. Et avec le changement climatique, il est possible qu'elles ne redeviennent jamais ce qu'elles étaient. On peut aussi voir se multiplier des bactéries comme des coliformes fécaux et d'autres maladies hydriques, typhoïdes, dysenterie, choléra. Aujourd'hui, on en observe peu grâce aux stations d'épuration, mais c'est tout à fait possible. Il y a 20 ans, à Saint-Jean, on pouvait encore trouver ces maladies dans certains endroits sans difficulté.
Waterborne diseases, things like typhoid, dysentery, cholera. We don't see a lot of that now, of course, because we have appropriate sewage treatment facilities that handle that. But it is possible. I mean, 20 years ago, I could have taken you to a place in St. John where you could have found all of those diseases, no problem. Anyways, yeah, no, you can get those increases. Cyanobacteria is by no means an invasive species. It's native to New Brunswick. It's native to the river.
Concernant les cyanobactéries, ce ne sont pas des espèces invasives. Elles sont indigènes au Nouveau-Brunswick, présentes dans la rivière et constituent même la base de la chaîne alimentaire. Elles existent depuis des milliards d'années, ce sont parmi les premières formes de vie sur Terre et elles ont contribué à créer l'atmosphère riche en oxygène et en azote que nous connaissons. Si vous aimez la biosphère, vous pouvez en partie leur dire merci. Mais comme pour toute chose, l'excès pose problème. Quand l'eau est riche en nutriments, chaude et ensoleillée, on assiste à des proliférations massives sous forme de blooms. C'est là que cela devient dangereux, car certains de ces blooms produisent des toxines appelées cyanotoxines. Deux sont particulièrement préoccupantes. La microcystine, un poison qui attaque le foie et peut provoquer de forts maux de tête et des malaises. Et l'anatoxine A, un neurotoxique connu au Nouveau-Brunswick pour avoir causé la mort de plusieurs chiens ces dernières années. Ces toxines sont invisibles à l'œil nu, on ne peut pas les distinguer dans l'eau, donc on peut s'y exposer sans le savoir. J'ai eu connaissance d'un seul cas où une famille a nagé dans un bloom de cyanobactéries, pensant que c'était du pollen sur l'eau, sur les conseils d'un voisin. Ils ont ensuite souffert de maux de tête et de symptômes proches de la grippe intestinale. Or, le pollen est jaune. Si l'eau est verte avec des traînées qui ressemblent à de la peinture ou à de la soupe de pois, ce n'est pas du pollen. C'est un bloom de cyanobactéries. Dans ce cas, il faut absolument éviter de se baigner. J'utilise une règle simple pour les gens. Si l'eau est verte, elle n'est pas propre, n'y entrez pas. Ces derniers temps, je reçois beaucoup de photos de personnes me demandant est-ce que ce sont des cyanobactéries, est-ce une algue dangereuse. Dans la plupart des cas, ce sont des algues normales, naturelles dans l'environnement, simplement plus visibles, sans doute à cause d'une meilleure sensibilisation, mais aussi parce que la chaleur, la lumière et les nutriments favorisent leur croissance. Cette année, il y a eu plusieurs blooms dans la province, mais dans les parties du bassin versant que nous suivons, nous avons eu de la chance. Aucun bloom n'a encore été détecté, mais je m'attends à ce que cela change dès que la pluie viendra lessiver davantage de nutriments vers la rivière. Avec un peu de soleil ensuite, des blooms apparaîtront probablement. Je peux en observer jusqu'en décembre.
Parts of the watershed that we have been monitoring have been quite lucky, and we really haven't seen any bloom activity at all. I suspect that to change as soon as we start getting a little bit of rain that'll wash some more nutrients in. And if we get a little sun after that, it will very likely pop up that there are a number of blooms that we will detect. And I mean, I can detect blooms right through till December.
Maintenant que nous avons déterminé les effets d'une vague de chaleur sur la faune et la flore de la rivière Saint-Jean, Colin Forsis, directeur exécutif de la Société du fleuve Saint-Jean, explique ce que nous pouvons faire pour réduire les effets du changement climatique et ainsi protéger un peu plus la rivière et de nombreux autres cours d'eau.
There's lots people can do. You know, think about water conservation. Think about how we use water and be more cautious with our use of water. It's a very precious resource.
Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire. Pensez à la conservation de l'eau. Réfléchissez à la façon dont nous utilisons l'eau et soyons plus prudents dans notre consommation. C'est une ressource très précieuse. D'autres gestes sont possibles. Si vous êtes propriétaire d'un terrain en bord de l'eau, laissez intact le rivage. Cela aide à réduire le ruissellement, à limiter les contaminants et les nutriments qui finissent dans l'eau et qui contribuent à certains des problèmes que nous observons. Ils peuvent aussi nous signaler leurs observations. Nous aimons dialoguer avec le public. Donc s'ils ont des questions, s'ils veulent en savoir plus sur les cyanobactéries et la qualité de l'eau, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. J'adore recevoir leurs photos d'algues, par exemple. Il est également important de réduire l'usage des engrais dans les terrains et de réfléchir à la manière dont nous utilisons certains produits. Si vous avez une fosse septique et que vous vivez près de l'eau, veillez à l'entretenir correctement. Cela réduit le risque que des bactéries ou des nutriments se retrouvent dans l'eau et contribuent globalement à protéger la qualité de l'eau. Une autre bonne raison de protéger les berges, c'est que lorsque des arbres surplombent les ruisseaux, les étangs ou les rives des rivières, ils permettent de maintenir l'eau plus fraîche et d'atténuer la hausse des températures. Ce sont donc des gestes concrets que les gens peuvent poser.
We haven't seen a heat wave and drought like this really since 1986. It's something that does happen. Unfortunately, it's happening more frequently for longer durations.
Nous n'avons pas connu de vagues de chaleur et de sécheresse comme celle-ci depuis 1986. C'est un phénomène qui se produit malheureusement de plus en plus fréquemment et sur de plus longues périodes, probablement en raison du changement climatique qui affecte la planète. C'est pourquoi nous devons travailler sérieusement à mettre en place des politiques climatiques ambitieuses, à développer des infrastructures d'énergie verte, mais aussi à améliorer l'efficacité énergétique et à nous affranchir définitivement des combustibles fossiles. Il faut aussi adopter de meilleures pratiques en foresterie et en agriculture. Cela ne veut pas dire que leurs pratiques sont mauvaises aujourd'hui, mais nous pouvons toujours les améliorer. Et je sais que ces secteurs souhaitent progresser car eux aussi dépendent de cet environnement et le changement climatique les affecte directement. Tous ces enjeux sont interconnectés et liés entre eux. Ce sont de grands défis, mais ce ne sont pas des problèmes insolubles. Bien au contraire, nous pouvons les résoudre si nous avons la volonté et le désir de le faire. À ce moment-là, nous réussirons. Je crois toujours en un avenir optimiste et prometteur où nous saurons relever les défis environnementaux actuels, restaurer nos écosystèmes et nous protéger de la fameuse catastrophe climatique que certains annoncent. Je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal pour prédire l'avenir. Mais je peux vous dire une chose, si nous agissons aujourd'hui, notre avenir sera bien plus positif que si nous choisissons de ne rien faire.
Which may or may not occur, right? Like I'm not clairvoyant. I don't have a crystal ball to tell you what's going on in the future, but I can tell you that if we take action today, we have a much more positive future than if we choose not to.
Paulin Forcis, directeur exécutif de la Société du Fleuve Saint-Jean, nous rappelle donc que la balle est dans notre camp pour, chacun à notre échelle, mieux protéger la rivière. Et si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur la Société du Fleuve Saint-Jean, rendez-vous sur le site internet www.saintjeanriver.org. C'était Loïne Gagnolet pour IGL.